Alors, on n'arrête pas le progrès. J'aurais jamais cru que je pouvais dialoguer comme s'il était en face de moi avec mon ami Nicolas Stocker. Bonsoir, cher Nicolas. Qui
Bonsoir,
est quelque part dans les
Paul-Marie.
forêts profondes proches de Paris. Je crois que c'est la Sologne. La
C'est
belle
ça.
Sologne. Bonsoir, Nicolas, donc.
Bonsoir, Paul-Marie.
Nous pouvons nous parler, je crois, à la condition que je chausse
C'est mieux.
mes écouteurs.
C'est mieux, c'est mieux.
Voilà, nous faisons une émission très spéciale, mon cher Nicolas,
Ouais.
qui me fait envie depuis longtemps. Donc, on rompt un petit peu l'habitude selon laquelle... Enfin, l'habitude, c'est la sixième émission des répliques du Nouveau Conservateur. Bonjour tout le monde. Mais enfin, c'est la première fois que je n'ai qu'un invité très spécial, Nicolas Stocker. Je ne sais pas s'il faut le présenter. Il fut, on ne le sait pas toujours, le fondateur du nouveau RPF en 1992. Ce même RPF qui sera repris ensuite, quelques années plus tard, par Philippe de Villiers et Charles Pasqua, qui hélas eut une existence éphémère, ce qui n'a pas empêché Nicolas Stocker de faire beaucoup de choses depuis lors, notamment de collaborer à Radio Courtoisie, à s'investir, comme on dit maintenant, beaucoup dans la défense du patrimoine, et en particulier la défense d'une église qui nous a valu une belle bataille. Il y a quelques années, c'est l'église Sainte-Rita dans le 15e arrondissement. C'était dans quelle année, ça, la bataille pour Sainte-Rita?
Ah, ça a commencé à peu près en 2015, sur les élections municipales d'ailleurs de 2015. C'est
2014.
lorsqu'avec.
Alors, c'est 2014, Nicolas.
Alors, 2014, janvier 2014,
Voilà.
j'étais à l'époque avec Alain Bournazel et Yvan Blot, et nous étions tous les trois. Nous célébrions
Et vos
chaque
conseillers
année.
noirs?
Les vœux d'un parti qui s'appelait le Rassemblement. Et eh bien, une année, nous avions été à refuser un Starbucks Café Place du Tertre à Paris. Et
Bien.
puis, l'année suivante, nous avions eh bien, les vœux du Rassemblement, nous les avions faits dans une église. On avait eu cette autorisation exceptionnelle de l'église gallicane de France à l'époque, et bien connue cette église Sainte-Rita pour, entre autres, sa bénédiction des animaux. Et eh bien, cette église devait être détruite par un promoteur immobilier qui avait prévu d'y installer...
Et elle fut sauvée.
Et elle fut
et installée,
sauvée
pardon,
quant
pardon
à
de
ses
vous
murs.
couper. Oui, les murs furent sauvés, mais le promoteur immobilier a été éconduit.
Mais néanmoins, malheureusement, le culte n'a pas pu y être restauré, malgré les multiples propositions. Mais le promoteur faisait payer très cher le fait qu'il n'ait pas pu la détruire avec l'opposition résolue et remarquée de la mairie du 15e arrondissement. Et donc, il avait bien mis à un prix prohibitif le rachat de l'église, qu'il avait déjà lui-même acquis auparavant à une association cultuelle. Et donc finalement, eh bien, c'est un club d'escalade qui a pu acquérir les murs, l'acheter, et aujourd'hui, eh bien, ça n'est plus une ascension vers Dieu, vers le divin, c'est une ascension tout court à quelques mètres de hauteur. C'est un club d'escalade qui s'est installé
Ah ben
dans
là,
cette
la
église.
partie est à moitié gagnée. Bon,
À moitié,
alors
exactement.
vous êtes aussi, cher Nicolas, on ne va pas énumérer chacune de vos batailles, nous nous sommes beaucoup rencontrés et re-rencontrés, je ne sais pas si vous avez fait partie du RIF comme Yvan Blot et Alain Bournazel que vous citiez tout à l'heure, mais...
J'étais un ami du RIF,
ça,
puisqu'à l'époque...
C'était un tel parti qu'il avait aussi des sympathisants,
existait.
Le RIF.
C'est ça.
Voilà,
ça.
Enfin, vous êtes un bourgogniste de bonne souche, on se connaît depuis, je ne sais pas, un petit siècle.
Depuis un siècle. Un quart de siècle largement,
oh,
en tout cas.
Oui. Et je vous ai toujours repéré comme un solide gaulliste, et j'ai toujours eu envie d'avoir avec vous une conversation sur ce que j'ai appelé, c'est le titre de cette émission, le paradoxe gaulliste. Avant cela, qu'il me soit permis de dire qu'à ma grande joie, je vous ai retrouvé récemment, il y a un an ou un an et demi, comme journaliste professionnel. Et vous vous révélez un excellent journaliste professionnel au service d'une chaîne qui fait merveille, qui est GPTV, c'est-à-dire Géopolitique
Profonde
TV.
TV.
télévision. Oui, enfin, c'est un peu à l'envers, mais enfin, ça s'appelle GPTV. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à vous regarder. Il y a un autre, vous avez un alter ego qui est Mike Borowski, que nos auditeurs de Radio Courtoisie connaissent aussi beaucoup. Très bien, je ne fais pas la retape pour cette chaîne, puisque vous le faites à la faveur de plusieurs émissions que GPTV et ses animateurs ont sur l'excellente Radio Courtoisie. Nous sommes un peu en famille, il faut le dire.
C'est ça, c'est ça.
Alors, nous sommes en famille, mais nous n'en allons pas moins parler du général de Gaulle. Je voulais qu'on fasse un peu une mise au point, et cette fois, c'est moi qui vous reçois. D'habitude, c'est vous qui me recevez sur, sur GPTV. Je ne sais pas s'il faut qu'on fasse la publicité, mais on fait plusieurs entretiens et encore il y a une quinzaine de jours. Vous et moi, je dois dire qu'il est toujours très agréable d'être, d'être en face de vous pour raconter ce que vous avez, sa vie d'abord. Je raconte beaucoup ma vie à votre micro. Et je me lâche beaucoup et peut-être trop d'ailleurs, quelquefois imprudent.
Non, non, non.
Et puis nous commentons l'actualité. Voilà, on peut se...
L'actualité, mais vu sous un prisme justement de votre expérience passée, Paul-Marie, de ce qui fait toute la richesse de votre parcours. Oui. Et donc vous nous donnez un éclairage.
J'ai fini par en voir beaucoup, c'est un fait. J'en ai vu.
L'éclairage que vous donnez de l'actualité est passionnant.
Bon, merci beaucoup. Alors, nous avons envie de parler du gaullisme, parce que nous souffrons, vous comme moi, comme beaucoup de gens, y compris des auditeurs de Radio Courtoisie. Je répondrai tout à l'heure à un auditeur qui me dit, mais que répondez-vous aux gens qui... vous parlez beaucoup de De Gaulle, que répondez-vous aux gens qui prétendent que De Gaulle a été ni de droite ni de gauche? Je réponds qu'en effet, il était ni de droite ni de gauche, il est d'extrême droite. Il répond à tous les critériums de l'extrême droite, généralement.
D'aujourd'hui, oui.
Dans tous les sujets, de ce qu'on appelle aujourd'hui. Vous savez, d'ailleurs, on l'a appelé fasciste, pardon, selon préambule, mais on l'a appelé fasciste très tôt, y compris certains cercles de la résistance qui refusaient de se rallier à Londres. Il était prétendument un dictateur. D'ailleurs, c'est ainsi qu'il était considéré à Moscou pendant longtemps, comme un fasciste d'obédience royaliste. C'était ça les fiches de Moscou. Il a été aussi très maltraité à la Libération par la gauche et par les communistes qui ont eu raison de lui alors qu'il les a ménagés. Il faut dire qu'il les a ménagés au point de les avoir désarmés avec la complicité de Staline, c'est compliqué. Et quand il est revenu au pouvoir en 58, vous savez que la gauche a manifesté en mai 58 sur le thème « Le fascisme ne passera pas ». C'était contre De Gaulle, « Le fascisme ne passera pas ». Donc après tout, on peut relever ce gant sans parler des CRSSS de 68. Et je pense que c'était un homme ni de droite ni de gauche, mais il répond aux critères de l'extrême droite. D'abord, sa formation est celle d'un royaliste et celle de Maurras. J'ai encore rencontré des Maurrassiens que je salue, des Maurrassiens qui m'ont accueilli à Marseille. Nous sommes allés. Moi, je l'ai fait en pensant, général de Gaulle, le recueillir sur la tombe de Charles Maurras, près de Martigues, dont nous célébrions l'anniversaire de la mort. Et je dois dire que je n'ai pas peur de considérer que le général de Gaulle était, en tous les cas aujourd'hui on l'appellerait tel, non pas un fasciste, ça ne veut rien dire, ou tout le monde l'est, ou comme dit Pasolini, dont on célèbre aussi l'anniversaire. Le fascisme a un grand avenir à condition de s'appeler antifasciste. Voilà, c'est très amusant. Mais de Gaulle est fait vraiment partie de la droite radicale. Mais il y a un paradoxe, quand même. Nicolas, je vous pose directement cette question à vous. Comment expliquez-vous, mon cher ami, que De Gaulle reste une référence à peu près universelle? C'est sans doute le chef d'État le plus populaire de tout ce que nous subissons depuis des décennies et plus. Et pourtant, tout ce à quoi son nom est attaché, l'indépendance nationale, l'autorité de l'État... et même la participation, par exemple, la lutte contre l'impérialisme est totalement foulée aux pieds, oubliée, passée sous silence. Il y a un paradoxe. Alors, on ne peut pas à la fois vénérer l'homme et torpiller son œuvre. Comment voyez-vous ce paradoxe, Nicolas Stoecker ?
C'est classique de la trahison des élites. Cette trahison, elle a eu lieu tout de suite, hein, d'ailleurs, dès l'origine, ce qui explique pourquoi il n'y a pas de successeur au général de Gaulle aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a certes un blanchiment, on a lavé, délavé la figure du général de Gaulle pour en faire aujourd'hui presque une figure de l'extrême centre, alors qu'il est tout à fait à l'inverse de cela. On l'a sorti de son contexte et on a bien sûr effacé tout ce qui pouvait y avoir de saillant dans le personnage. D'extrême droite, je ne sais pas. De fasciste, non. Dictateur, ça dépend de ce qu'on appelle la dictature. Je crois qu'en 58, il fallait bien un pouvoir exceptionnel et il l'a assumé, ce pouvoir exceptionnel, comme certains généraux romains ont pu à certains moments pour sauver.
On peut dire qu'il était plus ou moins issu d'un coup d'État très préparé, le coup d'État de 58. Hein. Mais c'est pas une critique.
Et voilà, et c'est pas une honte, et c'est pas une critique. Je pense qu'à certains moments, et on retrouve peut-être, on se rapproche peut-être à nouveau, on y est même peut-être totalement dans une situation qui est similaire aujourd'hui et qui nécessiterait peut-être exactement la même chose, même si là, par contre, on ne voit pas celui qui pourrait eh bien être le nouveau De Gaulle, mais en tous les cas. Oui, ils ont trahi, mais comme tout est trahi aujourd'hui, comme tout est renversé, les démons, la nation, la patrie, c'est une idée formidable. Lorsque ça devient le fascisme ou le national-socialisme, c'est détestable. L'idée d'environnement, l'idée d'écologie, c'est une très belle et une très noble idée que de défendre la Terre. Ce qu'elle est devenue aujourd'hui est tout à fait imbuvable. C'est tout à fait l'inverse de ce qu'elle aurait dû être à l'origine. On pense à l'écologie, à l'environnement, à l'écologie chrétienne, par exemple. Hein, après tout, notre monde est né dans un jardin quand on est chrétien, donc on est écologiste, si j'ose dire. Ça n'a rien à voir avec l'écologie LGBT, woke d'aujourd'hui, gauchiste. Donc je pense que c'est systématique, ce monde dans lequel nous vivons est un monde de l'inversion de tout. Ça me fait penser à mon ami Christian Combas, qui vient d'écrire un livre qui s'appelle « À l'endroit
».
Et oui,
très
il
grand
faut
livre.
Tout remettre à l'endroit.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout inversé. Donc, en fait, ils prétendent être gaullistes, puisque tout le monde a été et ou sera gaulliste, paraît-il, selon la formule. Mais enfin, aujourd'hui, ils se prétendent tous du gaullisme, ils se revendiquent tous du gaullisme. Mais en vérité, évidemment, ils font tout à fait l'inverse. Tout est à l'inverse. Déjà, dans le legs même de la Ve République, de la Constitution. Aujourd'hui, tout ce qui faisait l'originalité de la Ve République, le référendum, la
Ah oui,
légitimité
le référendum, par
du président de la
exemple.
République. Et la légitimité du président, eh bien, tout ça est abandonné aujourd'hui avec un président qui, eh bien, qui a été complètement dévalué, dévalué, et pas seulement dans les sondages, mais dans les élections, élections européennes, élections législatives anticipées, et puis plus aucun référendum. Ça, depuis 2005, depuis maintenant 20 ans, il n'y a pas eu un référendum en France, et pour cause,
Mais
le
plus de 20
dernier
ans.
ne leur avait pas donné
Je
satisfaction.
vous arrête 30 secondes, mon cher ami,
Je vous en
puisque vous
prie, j'ai
posiez la
fini.
question de la légitimité, qui est tellement importante. En effet, pas de référendum. Déjà, donc le pouvoir ne se retrempe pas dans la vox populi. Mais un commentaire stupide d'un quotidien dont je me garderai de donner le nom, mais qui n'en a pas moins publié il y a quelques jours, un sondage au terme duquel la cote de popularité du président de la République serait tombée à 11%. Et encore le commentateur explique que 11%, on a voulu se raccrocher aux 11% qu'avait obtenu à la fin de son quinquennat, lui-même ignominieux, de M.
François
Hollande,
Hollande.
de François Hollande. Donc on a dit 11%. Mais l'essentiel, disait ce commentateur assez complaisant, c'est qu'il ne tombe pas en dessous de 10. Mais je vous signale qu'aux élections européennes, à laquelle vous faisiez référence, celle la dernière, celle de mai 2024, son parti et même tous les partis qui le soutiennent, qui avaient une seule liste et une seule candidate, Madame von Hayek, je ne sais pas comment elle s'appelle,
Valérie Hayek.
J'allais dire Kayak, oui, je ne sais plus comment elle s'appelle.
Valérie Hayek.
L'histoire a déjà oublié son nom, moi en tous les cas, avait obtenu 14%. 14%, ce n'est pas beaucoup, on nous dit, etc. Oui, bon.
De 50%.
Mais
De
voilà,
55%.
car les élections, pour ceux qui croient à cette cochonnerie contemporaine qui s'appelle les élections, c'est pas mon cas. Mais il y a des actions de substitution, je m'empresse de dire, c'est pas une raison pour rester chez soi. Devrait s'intéresser surtout aux résultats par rapport au nombre des inscrits.
Oui.
Et par rapport au nombre des inscrits, la candidate de M. Macron et de son petit entourage a obtenu 8,3% des voix. C'est-à-dire, c'était minable, si minable d'ailleurs, que dans l'heure qui a suivi, pris par une colère, comme seuls les vaniteux peuvent en avoir, ou les orgueilleux pris dans le flagrant délit d'impopularité, a dissous sur un coup de tête l'Assemblée nationale. Je crois que sa cote est encore inférieure, donc je crois qu'il n'a même pas, pour reprendre ce que vous dites. Vous vous rendez compte, quand on disait que le roi était isolé à Versailles et qu'il ne représentait pas le peuple français, etc. Alors que dès qu'il y avait un enfant qui naissait, la France entière se réjouissait, la mort des rois était pleurée un peu partout. Mais aujourd'hui, il y a un président qui dirige à peu près tout, qui a perdu les élections, donc il aurait dû passer la main, et qui ne représente pas 10% des Français, et qui pour autant fait des promesses, parce que maintenant ça tient de la promesse, des promesses de guerre, chers Français, un jour vous allez devoir prendre les armes, c'est ce que nous a dit le chef d'état-major des armées avant-hier, je crois. Et tout ça au nom de moins de 10% de la population. Si un jour il s'avise de faire prendre les armes aux Français, il va pas être déçu, je crois qu'il y a beaucoup de
prendre
Français.
Prendre les armes et sacrifier, être prêt à sacrifier ses enfants.
Oui.
C'est ce que Fabien Mandon, chef d'état-major,
c'est ça,
général,
c'est lui.
Général Soja, hein, puisqu'il lui a fait, en 7 ans, il a pris 5 étoiles. Il est passé de rien du tout à 5 étoiles.
Ah, la servilité, ça rapporte. Bon.
Ah, oui.
Enfin, qu'ils prennent les armes, je ne sais pas très bien ce qui va se passer, parce que ça pourrait être les Français qui, à ce moment-là, prennent les armes contre ceux qui viendront les chercher pour les envoyer dans la Rasputitsa ukrainienne. Mais passons. Poursuivons, en effet, sur cette déréliction. Ce que je ne comprends pas, c'est-à-dire comment des gens qui votent Macron, j'en connais même plusieurs, réussissent à vous faire des éloges du général de Gaulle. Il y a quelque chose dans la... Il y a une bouillie que je n'arrive pas à éclairer, Nicolas. Vous avez peut-être pas, d'ailleurs, des lumières.
Sur la bouillie de ce qu'est le
moi, j'ai une hypothèse, aujourd'hui. Mais je vous laisse répondre. Il y a des gens qui vénèrent le général de Gaulle et qui votent Macron. Moi, j'en connais deux ou trois autour de moi.
Oui, mais quelle est la question précisément, Paul-Marie?
Comment expliquez-vous cette contradiction, ce que le titre de notre émission, le paradoxe gaullien?
Bien, je dis, c'est un paradoxe, en fait, qui est le fait de la trahison de ce que c'est que le gaullisme, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils se sont installés les uns après les autres dans la fonction présidentielle. Alors, il y a eu plusieurs niveaux dans la trahison, indéniablement. Hein, là, il y a eu, je dirais, la haute trahison qui a débuté avec trois chefs d'État, qu'étaient Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand et Jacques Chirac. C'est-à-dire qu'ils ont chacun trahi quelque chose de la structure politique qui existait à l'époque du général de Gaulle.
Jusqu'au quinquennat, ensuite, par exemple, en 2000, oui.
Alors, en plus. Et puis après, il y a eu les trois petits présidents qui, eux, sont les fossoyeurs, en quelque sorte, les traîtres.
Le tiercé de la catastrophe.
Voilà, ce tiercé que sont Sarkozy, Hollande et Macron. Je pense que cette trahison, elle est le fait que tout simplement le gaullisme politique n'a pratiquement pas existé. En tout cas, après 1974, il a très vite disparu.
Ah, voilà.
On peut
voilà.
déjà se poser la question de Pompidou. C'est-à-dire que,
voilà, oui,
en
voilà.
réalité, tous ceux qui se sont revendiqués de la droite et du gaullisme après la mort du général de Gaulle étaient, quant à leurs origines, leurs racines, finalement, ceux qui avaient été les opposants du général de Gaulle dans les années 60, c'était l'autre droite, mais c'était pas de Gaulle, c'était pas la politique gaullienne qui n'appartenait qu'au général et à quelques-uns de ses ministres et qui dirigeaient. On sait, et c'est pour ça que je disais une dictature, un dictateur. Et alors, lorsqu'il faut sauver la patrie, lorsqu'il faut sauver le pays, eh bien, il faut en arriver à des situations exceptionnelles. Et il y avait quelque chose d'exceptionnel dans cet homme qui fait qu'il était de Gaulle et ce n'était que lui. Et donc, tous ceux qui ensuite se sont revendiqués du gaullisme, leurs véritables origines étaient tout à fait à l'opposé du gaullisme.
Donc la trahison, ça serait même antérieure à Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas. Ça serait même Jean
Jacques
Pompidou.
Jacques Chirac, on a dit de lui que c'était un radical socialiste. Bon ben voilà, tout est dit, les radicaux socialistes,
mais Georges Pompidou,
à ma connaissance, n'ont jamais été gaullistes.
Georges Pompidou, c'était pas un radsoc.
Non, mais Georges Pompidou représentait déjà je pense, cette droite qu'on appellerait plus tard libérale ou néolibérale,
orléaniste,
plus précisément.
On dit, oui, c'est ça.
Orléaniste, si on, voilà, si on veut.
Sauf que l'orléanisme n'est pas du tout une droite, mais enfin bon.
À René Raymond, oui, enfin aux trois droites de Raymond, ça vaut ce que ça vaut comme dichotomie. Mais je crois que voilà le. Ce qu'on a appelé, en effet, si tant est qu'il y ait eu un gaullisme qui ait été un bonapartisme, ou en tout cas, aujourd'hui, on dirait populisme, en tout cas, avec cette fonction tribunicienne du gaullisme, eh bien, elle était représentée par un homme, et par un homme seulement, et c'est ça qui est assez étonnant. Il en fut le dernier, et il n'y a plus personne depuis.
Vous savez qu'en 65, pas mal de gens, plus ou moins... téléguidé par Georges Pompidou, conseiller au général de Gaulle de ne pas se représenter pour ne pas ternir son aura. Et Georges Pompidou, en sous-main, faisait préparer des affiches au mois d'août 65, des affiches pour lui, Georges Pompidou, au cas où les gens qui tournaient autour du général pour le dissuader de se représenter, j'ai quelques noms en tête, enfin je ne veux pas détruire l'armorial, on ne peut pas tout détruire à la fois, ne se serait pas présenté et Pompidou était prêt. Sans parler de la trahison du référendum, sans parler de
69.
69,
bien sûr.
Vraiment, Pompidou non seulement a tout fait, mais a fait pour faire élire,
faire battre
au référendum le général de Gaulle.
Tout comme Giscard.
Comme Giscard. Et beaucoup d'autres gaullistes sur le thème « Le vieux avait fait son temps », mais le vieux, c'était la représentation, malgré tout, de la politique traditionnelle de la France qui ne plaisait pas
c'est
à tout
ça.
Le monde, et notamment pas à l'étranger.
Elle s'arrête avec De Gaulle.
Notamment pas aux États-Unis. Et ça s'arrête avec De Gaulle, en réalité. Je crois qu'il faut dire ça.
Bah oui. Il ne faut pas dire que, parce que certains disaient, oui, alors le pompidolisme, c'est un gaullisme de droite. Mais justement, c'est pour ça que ce n'est ni droite ni gauche, ce gaullisme, c'est qu'il n'est, la droite, il n'est pas la gauche. Il le dit, il y a des formules fabuleuses de De Gaulle sur le sujet.
Il n'est pas la droite affairiste, libérale, etc. C'est surtout ça qu'il n'est pas. Parce
cette
que
droite qui s'oppose
à lui,
on peut
l'accrocher à la droite légitimiste, quand même, malgré tout, parce qu'il est dans la ligne du légitimisme, qui n'est quand même pas un mouvement de gauche. Bon,
non.
Faut pas exagérer.
Non.
Mais
non, surtout pas.
Poursuivant cette hypothèse, mise à part Pompidou, qui trahira d'ailleurs ensuite, notamment en 73, quand il commence à laisser filer les déficits en bon banquier, parce que les banquiers adorent les déficits et les dettes, parce que comme ça, ils sont le maître de tout. Vous connaissez la formule. Bon, mais après
ils touchent des intérêts dessus.
Oui, et puis après, ils tiennent. Vous savez, quand on a des crédits auprès de quelqu'un, fût-ce l'État français, il y a des grandes familles qui en ont profité. Dans le cours de l'histoire de France, on ne les a pas toujours aiguillés. Eh bien, on a barre sur l'État entier. Alors, il y a cette loi de 73 qui autorise l'État à ne pas recourir à la Banque de France, mais à des banques privées, françaises ou pire, étrangères, pour se refinancer. Il y a la saisine du Conseil constitutionnel aussi, qui a complètement changé le rôle du Conseil constitutionnel et qui a accéléré la prise du pouvoir par les magistratures. Donc, Pompidou a déjà commencé à trahir pas mal. Il y a une autre hypothèse que je vous livre, c'est peut-être la seconde partie de notre conversation, cher Nicolas, c'est qu'on n'a pas vraiment compris ce qu'était le gaullisme en soi. On l'a réduit à des postures. C'est peut-être un peu la faute du général de Gaulle, qui n'a jamais rien écrit noir sur blanc sur le sujet. Mais enfin, quand même, qui par son œuvre témoigne d'une radicalité que tout le monde ne perçoit pas. Il est beaucoup plus radical, en fait, quand on regarde son œuvre, et par exemple, la manière dont il parle à certains de ses proches, Claude Guy ou Alain Perfitte, que le croient les gaullistes, ou parce qu'on n'a pas le corpus. Est-ce qu'on a le corpus gaulliste bien en tête?
Non, on ne l'a pas. De Gaulle, évidemment, quand on étudie De Gaulle, on étudie d'abord son œuvre dite de jeunesse, Fil de l'épée, La France et son armée, vers l'armée de métier.
Vous savez, dans
ensuite,
sa jeunesse,
il y a beaucoup, les mémoires.
Dans sa jeunesse et aussi dans les années 30, à peu près à l'époque du Fil de l'épée, qui est déjà un livre qu'on a dit. Très, très proche de la prise du pouvoir par l'armée, en fait. Hein, le Fil de l'épée, c'est très radical et très nietzschéen. Mais il y a dans cette période-là des lettres que l'Institut, la Fondation Charles de Gaulle, présidée par Hervé Guémard, donc ça dit tout, présidée par Hervé Guémard, on sait qui est Hervé Guémard, ou peut-être qu'on ne le sait pas d'ailleurs, cache bien, c'est des lettres à sa mère où il professe son admiration pour l'œuvre de Mussolini.
Ah.
Et où il vitupère contre la République parlementaire en disant qu'heureusement Mussolini a tiré l'Italie des miasmes du parlementarisme.
Et...
Bon, enfin, je vous coupe, mais j'aurais pas dû.
Non, non, mais m'avez pas coupé, mais justement, ensuite, l'œuvre de Gaulle, pour revenir à ce qu'il a pu, et en effet, il ne l'a pas théorisé, il y a eu, mais c'est normal, puisque la guerre va le révéler, et donc il y a ces mémoires de guerre, et seulement ensuite les mémoires d'espoir, qui, inachevées d'ailleurs, et qui amènent petit à petit vers ce que serait une doctrine.
Il est mort au moment de l'écrire.
Voilà, il est mort au moment d'écrire cette doctrine, il ne l'a pas achevée. Quelle aurait-elle été probablement, bah, vous disiez ni droite ni gauche, donc cette idée, cette notion de troisième voie, ça tombe bien, c'était mon mémoire à Sciences Po, la troisième voie gaullienne.
La participation, oui.
Ah, pour moi, la troisième voie gaullienne, elle est à la fois sur le plan économique et social, l'association du capital et du travail, donc en effet la participation économique. Elle est aussi la participation politique, et la participation politique, c'est justement entre la République parlementaire ou la monarchie, c'est cette République référendaire. Donc c'est la notion de référendum. La souveraineté appartient, la souveraineté nationale appartient au peuple. Alors, il y a ce qui paraissait être un monstre juridique pour les constitutionnalistes, la souveraineté nationale appartient au peuple, et pourtant ça voulait dire ce que ça voulait dire, et donc c'était cette fameuse troisième voie, aussi sur le plan politique, et puis sur le plan international, le gaullisme indéniablement, ou l'action du général de Gaulle en matière de politique étrangère, c'est ce non-alignement, c'est cette troisième voie, c'est certains immenses discours, dont le discours de Phnom Penh, mais c'est pas le seul, qui ont tous été de fabuleux discours, comme Bayeux pour la Constitution et pour la participation politique. Il y a des grands discours, ça on peut quand même s'y référer, et oui. Puis il y a cette notion, je crois, de troisième voie. J'ai écrit 400 ou 500 pages sur le
sujet.
Alors
dans quelles circonstances, ça, je ne savais pas, vous avez écrit sur la participation ou sur la troisième voie?
Oui, c'était mon mémoire, c'était mon mémoire.
Dans quel cadre ce mémoire, Nicolas Stocker?
À Sciences Po.
À Paris?
Oui, tout à fait.
On a le droit de faire des mémoires un mémoire d'études sur le général de Gaulle à Sciences Po, c'est pas interdit?
À l'époque, oui.
Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit autorisé.
Ceci dit, j'ai été très mal noté. J'ai eu une sale note.
C'est pas en raison de l'auteur, je crois, c'est en raison du correcteur.
Les correcteurs, le directeur de mémoire était plutôt ce qu'on appelle un gaulliste, mais ce qu'on appellerait aujourd'hui un pompidolien. C'est-à-dire quelqu'un qui ne croyait pas du tout dans cette participation. C'est-à-dire que beaucoup n'y ont jamais cru, comme Pompidou n'y a jamais cru, comme Balladur, qui était son directeur de cabinet, n'y croyait pas. Tout a été fait pour empêcher ce qui était... Alors, il y avait ce qu'on appelait les gaullistes de gauche qui porteraient ce projet. Je pense que c'est impropre. Les capitans, les Hamon, sont peut-être des gaullistes de gauche, mais ils avaient en tout cas ce projet.
Oui, les Saint-Robert, etc. Mais enfin, c'était plutôt pas capitans, mais c'était plutôt des royalistes, en fait.
Ah oui,
vous savez d'où venait le projet de participation?
Élève
Stocker, je ne peux rien vous apprendre sur le sujet sur lequel vous avez
la participation, elle vient
travaillé.
Entre autres, la doctrine sociale de l'Église, elle vient du Sillon, elle vient de Marc Sangnier, elle vient de tous ces courants.
Vous savez que c'était un point capital du programme du comte qui a renoncé au trône. Je suis en train d'oublier son nom.
Au trône, à la... c'est le comte de Chambord,
Le comte de Chambord. Le comte de Chambord avait eu le temps, parce qu'il a passé pas mal de temps en exil, de faire un programme très au point, dont la partie sociale était inspirée en effet de la chrétienté, tout simplement. Et un des points majeurs était... une mise au point assez précise de ce que pouvait être et devenir dans les industries, les grandes industries qui se constituaient, qui sont beaucoup développées à la faveur du Second Empire, la participation. Et le général de Gaulle, par son père, Henri de Gaulle, connaissait parfaitement les projets du comte de Chambord. Alors évidemment, si on n'a pas ça en tête, on le comprend pas, peut-être, le projet de participation.
Il y a même ce qu'on a appelé à un moment donné le socialisme utopique, les Proudhon plutôt que Marx. Il y a toutes ces racines.
La grand-mère du général avait consacré un livre à Proudhon, oui.
Ah bah oui.
L'Odette, d'ailleurs.
Ben oui.
La participation, ouais, aujourd'hui, ça nous sauverait de bien des choses. Par exemple, des délocalisations, par exemple. Si le capital était en partie possédé par les travailleurs, eh bien, je pense qu'ils ne laisseraient pas filer leurs entreprises aux quatre coins du monde.
Du capitalisme managérial, c'est tout à fait la participation aussi, l'association du capital du travail, à l'opposé, je dirais, des grands projets forum de Davos, hein, qui est « vous n'aurez rien ». Il y a cette idée d'être une démocratie des petits propriétaires aussi. Chacun est sa petite propriété. Je crois que ça fait partie aussi de l'esprit de cette troisième voie.
Très opposé à la participation.
Ce qu'on a appelé le pan-capitalisme.
Le pan-capitalisme, oui, ça c'était une thèse de plusieurs de ses proches, et de Louis Vallon en particulier. Parmi les opposants, il n'y avait pas simplement les grandes entreprises, les grands patrons, comme on dit, mais il y avait aussi les syndicats, qui voyaient filer, qui voyaient filer leur magot, leur précaré.
Patronat comme syndicat était hostile, ça, et c'est ce qui a condamné d'ailleurs la participation. C'est
et ce fameux référendum de 69, dont le sujet était finalement la participation. Mais là, le général a fait une erreur. Et Jean-Noël Jeanneney, qui a préparé le projet référendaire, s'est pris les pieds au tapis. Parce que ces questions qui n'étaient que sur la régionalisation d'abord, sur la réforme du Sénat, qui devait devenir une chambre des faisceaux, un peu, pour
revenir
à Mussolinien, par fusion avec le Conseil économique et social.
Oui, ou des corporations.
Des corporations, oui, c'est ça. C'est une référence plus vichiste, mais enfin bon, ça ne me dérange pas. A été très mal présenté, en réalité. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, enfin, c'est pas amusant, c'est que si on enlevait Paris et la couronne, les deux couronnes, le oui passé le 27 avril. La province avait voté oui majoritairement. En enlevant Paris et la petite et la grande couronne, le oui était majoritaire, Nicolas, en 69.
Mais n'est pas étonnant, puisque c'était la régionalisation et la réforme du Sénat. Donc, ça n'est pas assez. En tout cas, les provinces de France avaient compris ce projet, qui était un projet qui était d'ailleurs lui le considérait comme une réponse à mai 68. Donc, en effet, un mouvement très parisien, hein, d'ailleurs, ce qui explique pourquoi les Parisiens et Paris et la banlieue a voté contre. Et puis, il y avait en effet dans cette notion de participation, c'était la participation politique. C'était un des trois versants. Mais on ne peut pas non plus oublier, mais ça on en parlera peut-être ensuite, Paul-Marie, c'est-à-dire de la politique étrangère, de cette troisième voie gaullienne qui est le non-alignement.
Qui a été bafoué ensuite. Et les Français ne comprennent pas ce qu'avait le général de Gaulle en tête sur ce sujet. Nous allons y venir. Je ne citerai jamais assez la phrase d'Henri Gobard qui date de ces années-là. Le général de Gaulle s'est fait une certaine idée de la France pendant que les Français se faisaient une certaine idée de l'Amérique. Et c'est peut-être ça aussi le hiatus. C'est que beaucoup sont tellement colonisés, mot qu'il a utilisé d'ailleurs, le général de Gaulle. Vous savez, quand il dit à Perfit en 63, voilà, nous avons décolonisé l'Algérie. Je crois que c'est le 4 janvier 63. Je l'ai dans mon perfide illustré. Je ne sais pas s'il y a une caméra, je le montre. Mais
c'est sur les émissions de GPTV. Sur GPTV, c'est cité. Et c'est vrai que je ne connaissais pas cette formule.
Elle est formidable. Ben oui, c'est dans Perfite. Nous avons décolonisé l'Algérie, dit-il à Perfite, dans le Salon Doré, le 4 janvier 1963. Et bien maintenant, nous allons procéder à notre propre décolonisation et s'en suivre des diatribes sur la colonisation américaine que les gens n'ont pas comprises, parce que je crois que finalement le gaullisme n'a pas été compris aussi. C'est une des raisons du paradoxe d'aujourd'hui.
Alors, où ils n'ont pas voulu, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir et ne pas entendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu comprendre le gaullisme. Parce que je pense que réellement, ces forces qui ont ensuite pénétré et capté le gaullisme étaient fondamentalement, et c'est là l'imposture à l'origine et dans les années 50 et 60, des forces profondément anti-gaullistes.
Bien sûr. Vous en avez fait un livre où vous l'avez publié, ce mémoire de 400 pages.
Non, je ne l'ai jamais. Non, mémoire. J'ai... Oui, c'est un gros mémoire et je ne l'ai pas encore publié à plusieurs reprises. Je m'y suis penché. C'était quelque chose à l'époque en plus qui était dactylographié. C'était pas, je ne l'ai pas
sur... Il faut le reprendre à nouveau frais, mon cher. Il faut travailler.
Il faut tout reprendre.
Nouveau frais profonde. Bon.
Voilà.
Alors, c'est ça. Est-ce que vous travaillez en musique, Nicolas?
J'aime la musique. J'aime la musique. J'aime beaucoup la certaine. J'aime la musique qu'on appelle musique classique, évidemment, de décaphonique. Comme j'aime la musique, comme j'aime aussi la variété, pour tout vous dire. J'aime toute forme de musique. Et oui, il m'arrive de travailler en musique, mais là, dans ces cas-là, c'est plutôt de la musique classique.
Alors, vous avez choisi pour nous une œuvre que j'aime beaucoup, je dois dire. Ici pour rien, dans votre choix. Une œuvre d'Aram Khachaturian, La danse du sabre.
En 2025, Radio Courtoisie fête ses 38 ans. Pour célébrer ce bel événement, rejoignez-nous à la messe d'Action de Grâce à l'occasion de cet anniversaire et aux pots amicales qui auront lieu le samedi 22 novembre en l'église Saint-Eugène-Sainte-Cécile, 4 rue du Conservatoire, Paris 9e. Pour participer au pot, inscrivez-vous en ligne sur notre site internet anniversaire.rc.fr ou par courriel à secrétariat@rc.fr ou encore par téléphone au 01 46 51 00 85.
Alors, il va falloir que nous coupions, hélas, c'est une œuvre qui est dans toutes les oreilles. Et je me dois d'être rapide, car mon cher Benoît, dont je ne vanterai jamais assez la maîtrise, les talents, la gentillesse, des qualités sans fin, et la subtilité, vient de me montrer qu'il ne nous reste plus qu'un grand quart d'heure, parce que je voudrais garder 2 ou 3 minutes pour répondre à des questions relatives aux émissions antérieure, aux 5 premières. Mais enfin, on peut reprendre cette conversation, Nicolas, Radio Courtoisie, quand bon vous semble. On en arrive à un point, à propos du général de Gaulle, important. Vous dites qu'il n'a finalement pas été compris, en particulier sur la dimension internationale.
Ah oui.
En particulier sur sa diplomatie, qui était infiniment plus exigeante qu'on ne le croit, et qui a été brouillée ensuite par la propagande. Qu'avons-nous à dire là-dessus? Parce que c'est peut-être sur la diplomatie que le point d'opposition entre les gaullistes d'aujourd'hui et le général de Gaulle, ou même ceux qui révèlent le général de Gaulle un peu dans le brouillard, et de Gaulle lui-même est le plus criant.
Ben s'il y a un domaine où on peut parler de prophétisme gaulliste, c'est bien en matière de politique étrangère. Mmh. Et c'est le drame aussi peut-être du général de Gaulle, c'est d'avoir, non pas eu raison trop tôt, mais d'avoir eu une vision qui mettrait du temps à se développer. Et c'est aujourd'hui plus que jamais, que cette notion de troisième voie, de non-alignement, trouverait sa plus grande expression. Parce qu'à l'époque des blocs, lorsqu'il exprime cette pensée de non-alignement, évidemment, on se dit, c'est facile, il y a d'un côté le bloc communiste, et puis de l'autre côté le bloc occidental libéral. C'est pour dire d'ailleurs combien de Gaulle ne pouvait pas être considéré comme un... comme un occidentaliste, comme quelqu'un qui était favorable à l'Occident. Il y a chez De Gaulle, à ce moment-là, est-ce que vous me voyez toujours? Parce que j'ai un petit...
Nous vous voyons, cher Nicolas.
Voilà, tout à fait. J'ai eu une petite rupture de réception. Donc oui, cette idée de dépasser... l'affrontement Est-Ouest. À l'époque, vous avez, en 1962, la crise de Cuba, où d'ailleurs, De Gaulle, et c'est ça qui est incompris chez De Gaulle, c'est qu'on dit que mais, vous parlez d'un non-alignement du gaullisme, le discours de Phnom Penh, par exemple, mais c'est bien gentil ce que vous dites, mais en même temps, lorsqu'il y avait de fortes tensions, il s'alignait avec l'Empire américain. Et ce n'est pas faux pour la crise de Cuba, où il s'était résolument aligné avec avec les États-Unis. D'ailleurs, il fera quitter à la France l'OTAN ensuite seulement et restera dans le cadre du traité atlantique de l'Atlantique Nord. Donc il y a oui, chez ça, De Gaulle
l'affaire de Cuba. L'affaire de Cuba, oui, c'était aussi il y avait aussi une arrière-pensée. C'était déjouer l'opposition de Kennedy et des États-Unis qui se liguaient et les services américains qui ont leur efficacité avec eux, contre la fabrication de la bombe nucléaire française. C'était une façon de faire passer la pilule, et tous ces entretiens avec Kennedy, c'est Eric Branca qui l'a montré dans un très bon ouvrage qui s'appelle « De Gaulle et les grands », avaient pour but de désarmer l'opposition américaine à une arme atomique française. Voilà.
Mais le grand œuvre de Gaulle en matière de politique internationale, outre le premier à avoir reconnu aussi la Chine, et ça c'est parce qu'il y avait chez lui cette notion de grande Europe, et j'ai même envie de dire d'Eurasie, de bloc eurasien qui allait de l'Atlantique à l'Oural, mais plus encore peut-être de Brest à Vladivostok. Il y a cette idée d'aller contre les puissances, dirons-nous, thalassocratiques de l'Empire états-unien.
L'Eurasie.
Et c'est ça, et l'Eurasie, et autant à l'époque, c'était impossible, puisque vous aviez l'idéologie marxiste-léniniste, vous aviez le communisme.
Ah oui, c'était impossible, mais la coopération avec la Russie a brillé de mille feux.
Elle a brillé de mille feux, mais la pleine expression...
Surtout à partir de 1966, c'est son long voyage de trois semaines, je crois, en Russie en juin 1966.
La pleine expression de cette grande Europe, elle aurait trouvé... avec la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, eh bien c'était le moment ou jamais. Et ça, c'est une occasion qui a été ratée d'abord, je dirais, par celui qui était en charge de la France à l'époque, et qui était le grand ennemi, et celui qui n'a jamais rien compris à De Gaulle, qui était François Mitterrand, un des plus grands fossoyeurs.
Et de la droite française, avec l'aide de Reagan et de...
C'est ça.
Enfin bref, façon, oui.
Par la suite, il n'y aura que, on en a parlé dans plusieurs émissions sur GPTV, Paul-Marie, mais ensuite nous aurons des présidents américains, hein, et le premier d'entre eux, ce sera évidemment Sarkozy, mais les deux autres sont aussi des gens qui sont à la solde de l'Amérique, et celui que nous avons aujourd'hui, plus encore peut-être que les deux autres réunis.
Mais... On n'a pas compris jusqu'où ça allait, parce que les mots ont leur poids. Je cite tout le temps cette phrase en ce moment, elle m'occupe beaucoup. Je vais cesser de l'utiliser à tort et à travers. Quand on pressait en 64 le général de Gaulle de se rendre en commémoration du débarquement américain, il répond à perfide, toujours perfide, mais pourquoi voulez-vous que j'aille commémorer leur débarquement, parlant des anglo-saxons. Il se comportait en France comme un pays conquis. Ce débarquement n'était que le prélude à une deuxième occupation du pays. Vous vous rendez compte comme c'est fort? Ça, je crois que les Français n'ont pas compris. Ça voulait dire qu'ils prévoyaient l'occupation américaine.
Overlord,
et quand
c'est
il parle de colonisation,
ouais,
à propos de l'Algérie, il faut qu'on se décolonise. C'est très fort aussi. Les Français n'ont pas compris jusqu'où allait ce refus de la colonisation américaine. Et c'est très net, d'ailleurs. Il dit un peu plus tard à Pierre Fitte, le grand problème maintenant que l'affaire d'Algérie est réglée, c'est l'impérialisme américain. Le problème est en nous, parmi nos couches dirigeantes, parmi celles des pays voisins. Il est dans la tête, mais ils ne s'en aperçoivent pas. Voilà, ils ne s'en aperçoivent pas. C'est terrible, ce hiatus sur les États-Unis. En effet.
C'est tout à fait ça.
Alors,
on rappelle que l'opération de Normandie était l'opération Overlord, qui veut dire suzeraineté, et c'est exactement ce que les Américains se prévoyaient de faire, c'est-à-dire de s'adresser à des vassaux.
Et elle était précédée, on en a parlé lors de notre dernière émission, j'ai eu une question sur le sujet d'ailleurs, par un bombardement systématique des ports et de certains centres stratégiques. Il n'y a pas que les ports, hein, près de chez vous, Vierzon, je crois, il y a eu aussi canardage de l'aviation américaine. Bref, passons. Alors, aujourd'hui, j'en voudrais arriver à la dernière partie, hélas, trois fois hélas, de cette première conversation, il y en aura peut-être une seconde, voire une deuxième, mon cher Nicolas. Ça signifie quoi être gaulliste ? Y a-t-il un héritier quelque part ? Un ou des héritiers authentiques, d'après vous ? Et deuxième partie de ma question, qu'est-ce que ça peut signifier aujourd'hui être gaulliste, Nicolas Stocker ?
Alors sur l'héritier, je n'en vois pas. J'ai beau écartiquiller les yeux, il n'y a pas d'héritier, de même qu'il n'y a jamais eu d'héritier au gaullisme. Il y aurait pu y avoir. Il y avait des barons du gaullisme qui étaient, Pierre Messmer, par exemple, aurait été certainement un excellent successeur au général de Gaulle et peut-être à Georges Pompidou. Mais il n'en a pas été ainsi. En tout cas, il n'y a plus aujourd'hui d'héritiers du gaullisme, et tous ceux qui auraient pu, qui ont connu fortement le général de Gaulle, et sont maintenant des personnes qui sont sorties des cadres de la politique.
Et personne ne peut reprendre le flambeau ?
Non, je pense qu'il y a aujourd'hui, moi je ne vois personne de personnage politique inscrit dans l'espace politique français. Relativement connu, qui pourrait reprendre le flambeau. Après, il ne faut pas oublier que le gaullisme s'est forgé dans la guerre, s'est forgé dans des situations exceptionnelles. Donc, une nouvelle situation exceptionnelle viendrait, que peut-être, et probablement,
surgirait un homme exceptionnel, oui, ce qu'on appelle...
Un homme exceptionnel Un homme exceptionnel, un homme qui serait peut-être aussi un dictateur au sens noble du mot dictateur, parce que la situation de la France est tellement dramatique aujourd'hui que je ne vois pas comment nous pourrions nous en sortir par le biais, je partage totalement votre avis sur les élections, ce n'est pas par le biais des élections que nous aurons et que nous trouverons un successeur.
Vous croyez à l'homme providentiel ou la femme providentielle, après tout, ne soyons pas sexistes. Nicolas
Je crois en la providence. Je crois en la providence. Donc, croyant en la providence, j'imagine qu'il puisse y avoir. Que la providence peut, en effet, des fois nous indiquer un homme dont on dirait a posteriori qu'il est providentiel.
Alors, donc, deuxième volet de ma question, être gaulliste aujourd'hui, qu'est-ce que ça suppose ?
Eh ben, être gaulliste aujourd'hui, c'est, en revenant sur les principes de la doctrine, c'est être en effet tout à fait hostile au néolibéralisme économique, donc c'est être pour la participation, l'association du capital et du travail sur le plan économique, social, c'est revenir à la doctrine sociale de l'Église, sur ce plan-là économique. Sur le plan politique, c'est revenir à la source de la Ve République, c'est-à-dire revenir au référendum, revenir à un président élu pour 7 ans, au-dessus des partis, qui recherche une légitimité et pas seulement une légalité, et qui ne prend pas qu'à la lettre et que pour la lettre la Constitution, mais aussi dans son esprit, sur le plan donc politique et au-delà, et bien sûr, des partis politiques, mais cette idée d'une troisième voie aussi entre l'aspect purement monarchique ou la République. Et puis, le troisième axe d'être gaulliste, c'est vraiment, pour moi, la grande Europe. C'est l'amitié franco-russe. Aujourd'hui, je pense que, totalement à rebours de ce qui se passe, de 60% des Français, selon un sondage, ont peur de la Russie de Poutine, au lieu de se dire que Poutine représente un modèle, un exemple. On me l'a beaucoup reproché, j'étais allé écouter, je crois, Régis Le Sommier ce jour-là, qui revenait de Syrie et qui faisait au dialogue franco-russe, à l'époque le dialogue franco-russe était sur les Champs-Élysées, et il y avait un journaliste de l'Express qui était venu enquêter un petit peu sur ces fameux membres du dialogue franco-russe, et lorsqu'il m'avait vu, me connaissant de combats passés, Il avait dit, mais Stocker, vous qui êtes gaulliste, qu'est-ce que vous faites sur l'alliance franco-russe? Et je lui avais dit, eh bien aujourd'hui, celui qui représente peut-être le plus le général de Gaulle pour un gaulliste, c'est Vladimir Poutine. Et alors là, évidemment, il avait failli tomber. Et il était tombé des nues, il avait failli tomber de...
Il fallait le pousser, en profiter pour le pousser.
Il aurait fallu pour le pousser.
Bravo.
Donc voilà, et c'est ça, c'était vraiment... S'il y a un héritier du gaullisme, il n'est pas en France. Il est en Europe.
Comme dit Poutine, la Russie est européenne, mais pas occidentale. J'aimerais qu'on puisse en dire un jour autant de la France. Bon, cher Nicolas, c'est un crève-cœur de vous quitter, mais tout le monde a compris que nous allons nous retrouver.
C'était un plaisir.
Venez en chair et en os la prochaine fois. Ça sera pour, d'ailleurs tout aussi facile que de parler avec ces instruments nouveaux qui me font penser que vous êtes... à côté. Bien, travaillez
merci
bien
à
avant que nous ne soyons de revoyure, mon cher Nicolas.
Merci à vous,
et puis
mon cher Paul-Marie.
Peut-être un livre sur De Gaulle de votre part serait assez bienvenu, de La Troisième Voie, ça se théorise. Voilà, à bientôt Nicolas, merci encore.
À bientôt Paul-Marie, merci.
Je garde quelques minutes si maître... la technique, comme on dit, m'y autorise. Benoît, puisque je n'ai pas répondu à quelques questions qui sont arrivées en cours de route dans les 5 premières émissions de ces nouvelles répliques du Nouveau Conservateur, formule qui m'amuse beaucoup d'ailleurs, je crois qu'entre nous c'est beaucoup plus agréable, bien que ce soit trop court, que les 3 longues heures que nous avions, finalement moi je finissais par être un peu fatigué, lorsque nous avions 3 heures pour le libre journal de la Résistance française, je les regarde d'un certain point de vue, et d'un certain point de vue je préfère la nouvelle formule. Bref, mais je n'ai pas le temps malgré tout de prendre les questions d'auditeurs, je profite pour en répondre à 2 ou 3. 2 auditeurs m'ont dit, vous ne parlez jamais de la question ukrainienne, c'est pourtant celle qui nous fait le plus peur. Est-ce que vous croyez que nous allons vraiment vers la guerre avec la Russie? Alors je voudrais vous rassurer, chers auditeurs, l'un comme l'autre, c'est une auditrice et un auditeur qui m'ont posé la question. Non, il n'y aura absolument aucune guerre entre la France et la Russie, rassurez-vous. Nos piou-piou, comme on disait naguère, ou jadis, ne seront pas réquisitionnés pour partir en Russie. D'abord parce que si quelque autorité que ce soit, encore le mot autorité est un bien grand mot, ça visait d'aller chercher de braves Français jeunes de 20 ou 25 ans dans leur chaumière, je pense qu'ils seraient très mal reçus et ceux qui sont armés prendraient les armes, mais pas contre la Russie, si vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait être d'ailleurs une des raisons de déclencher de vastes mouvements de résistance. Donc personne ne va s'en aviser, il raconte n'importe quoi. Un haut gradé dit que d'ici 2 ou 3 ans, il faudra être prêt à partir en guerre. C'est ridicule. À quoi s'ajoute cette affaire des Dassault, des Rafales, des 100 Rafales promis avant-hier à M. Zelensky, dont personne ne répond, ne dit d'ailleurs qu'il n'est même plus du tout président d'Ukraine, puisque son mandat est arrivé à expiration il y a presque 2 ans, il y a 20 mois exactement, qu'il n'est plus président d'Ukraine. Donc, d'ailleurs, il n'y a même plus de gouvernement ukrainien, puisque 2 ministres ont été mis au fer pour prévarication, et les autres se tiennent tranquilles, parce qu'ils sont à peu près tous aussi corrompus les uns que les autres. Il y en a un d'ailleurs, et pas le moindre, ministre de la Défense, qui est parti se réfugier en Turquie. Personne ne dit non plus que le ministre de la Défense ukrainien est actuellement en Turquie, et cela depuis 3 semaines, quelque chose comme ça. Ça paraît un peu bizarre pour un pays en guerre que le ministre de la Défense se défile et parte se mettre au vert. Bref, c'est une débandade sans nom. Et ces histoires de rafales ne sont que des coxigrues, comme disait Raymond Barre, supplémentaires. Je rappelle qu'un rafale coûte, sans même penser à l'entretien, 130 millions. 100 rafales, il faut les financer, c'est certainement pas l'Ukraine qui peut les financer, ça serait donc vous, chers amis, qui financerez ces rafales hypothétiques. De toute façon, Dassault a pour ces fameux rafales des comptes des commandes fournies, il y en a plusieurs dizaines à fournir d'abord, peut-être même plus d'une centaine je crois, et les usines de production de rafales qui ont tourné à 2 avions à 25 avions par mois jusqu'à présent pourraient peut-être arriver à 30 ou 35 avions par mois, mais il faudrait plusieurs années pour fournir d'abord les autres pays qui ont commandé des rafales avant de partir dans les 100 rafales russe, enfin russe promis à lutter contre la Russie. Bref, tout ça, c'est fait pour vous faire peur, c'est vous faire avaler une armée européenne qui n'aura jamais lieu non plus. Ne faites pas attention à toutes ces bêtises. Il y a une seule chose qui est vraie, le grand échiquier de Brzezinski en 97, j'avais publié un livre pour lui répondre d'ailleurs, qui s'appelait L'Europe vers la guerre. Quelques années plus tard, ce livre, mon livre n'était pas si mal vu, parce que je prévoyais qu'une partie de l'Europe serait montée contre l'autre, c'est exactement ce qui se passe. A tout dit, Brzezinski, il faut mettre la Russie sous contrôle. Bon, à partir de 2014-2015, on a compris que les États-Unis avaient fait un coup d'État, cette fois plutôt nocif en Russie et qu'à partir de ce moment-là, l'Ukraine est devenue un État américain avec des ministres américains. Il y a deux braves dames d'ailleurs qui n'avaient même pas le passeport ukrainien et qui se sont retrouvées ministres du gouvernement ukrainien. C'est vous dire si l'imposture est évidente. Il a fallu leur donner à toute allure la nationalité ukrainienne pour qu'elles puissent devenir ministres ukrainiennes. Donc, tout ça est réglé, j'en parle peu, chers auditeurs, parce que je pense qu'il faut laisser le temps faire son œuvre et les vérités apparaître. Plus courtement, je dirais une chose. Nous avions il y a 15 jours invité deux jeunes gens qui représentaient une jeunesse qui se réapproprie l'histoire. Et je dois dire que la dame de pierre qui poursuit sa tournée actuellement en province se heurte à quelques difficultés. Encore à Aix en Provence la semaine dernière, il y a eu 5000 entrées. Eh bien, il y avait une centaine de rigolos de la CGT qui empêchaient les gens d'entrer pour voir la Dame de Pierre. Et c'est pareil pour Murmure de la Cité de Guillaume Sonnet. Nous reviendrons sur la question prochainement. Je crois que mon temps est arrivé à expiration. Je vous dis la semaine prochaine, mes chers amis. Bonne semaine.
Vous venez d'entendre les répliques du Nouveau Conservateur dirigé par Paul-Marie Couteau, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 19 novembre 2025 de 16h à 17h et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.